Ce message vous est proposé gratuitement.
Gratuitement.
Et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Car il a vaincu. Il a vaincu l'ennemi. Il a vaincu Satan. Il est plus que vainqueur. Il est triomphant. Et avec lui, et par lui, nous sommes aussi triomphants. Oh, c'est pour nous qu'il a fait cette œuvre. L'agneau, oui, qui était offert. Offert avant la fondation du monde. L'agneau, représenté par tous ses sacrifices multiples dans l'ancienne alliance. L'agneau qui a été présenté là, à Golgotha, comme étant celui qui porte l'iniquité du monde entier, une fois pour toutes, et qui a vaincu Satan, le serpent ancien, l'agneau, qui bientôt viendra dans son règne. Il est venu dans un premier temps pour régner dans le cœur de ceux qui l'ont accepté. Mais maintenant, bientôt, il viendra pour prendre l'autorité sur cette terre entière et il régnera de Jérusalem, la ville qu'il a choisie depuis le temps d'Abraham. Ô Seigneur, là où tu t'es offert en sacrifice pour l'humanité, que pouvons-nous dire? Comment nous exprimer? Seigneur, mon Dieu, nous sommes dans l'étonnement. Et Seigneur, même les paroles pour exprimer ce que nous ressentons sont difficiles à exprimer, à sortir, car Seigneur, nous sommes limités, mais mon Dieu, tu as fait cela pour nous. Merci Seigneur, veuille nous parler encore, ta parole est la vérité. Merci Jésus. Gloire à l'agneau sur le trône. Jérusalem haïe par les nations. C'est ce que nous voyons encore aujourd'hui. Jérusalem haïe par les nations. Il y a grande joie et bénédiction lorsqu'une nouvelle vie vient dans le monde. Tout à l'heure, nous avons eu 3 petits-enfants qui ont été présentés au Seigneur. Et c'était une joie pour les parents. C'est une joie de voir ces petits-enfants dans lesquels il y a un potentiel. Et tous les parents trouvent que leur enfant est plus beau que tous les autres. Pourquoi pas? C'est votre droit. Plus beau, plus intelligent, plus sage. Et quand l'enfant tourne mal, évidemment, c'est une déception, ce sont des larmes, ce sont des souffrances. C'est vrai. Mais c'est une bénédiction lorsqu'un papa et une maman peuvent avoir dans leurs bras un enfant qui sort d'eux. C'est la raison pour laquelle lorsque on ne peut enfanter, il y a une tristesse, il y a un vide. Un vide, oui, c'est vrai. Mais frères, sœurs, nous voyons ces choses à travers toute l'histoire. Le corps humain est une chose très, très compliquée. Très compliquée. Mais lorsqu'on appartient au Seigneur, le Seigneur compense ce vide par sa présence. Compense ce vide par beaucoup d'autres choses. Il y a des gens qui veulent absolument des enfants à n'importe quel prix. Non, je préfère avoir des enfants au prix de Dieu. Au prix de Dieu. Voilà. Et je crois que lorsqu'on comprend ces choses, en tant qu'enfant de Dieu, le vide est rempli. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, on a tellement plus de temps pour s'occuper des autres. Et c'est ce que le Seigneur veut. Il y a un ministère pour chacun dans son domaine particulier. Voilà. La joie et la bénédiction d'une vie nouvelle qui vient dans le monde, est merveilleux, n'est-ce pas? Cette joie est précédée toujours de douleur et de peine. C'est ainsi que la vie s'exprime et qu'elle est close. Autrement dit, la vie n'est close qu'à travers un chemin d'abord de souffrance et de peine. La douleur, la peine, la souffrance problème que le monde n'a jamais pu solutionner, ont été une conséquence du péché. Lorsqu'il n'y avait pas de péché, il n'y avait pas de douleur et de souffrance. Le péché étant venu dans le monde, la douleur est venue aussi dans le monde. Dieu n'avait-il pas dit, après la chute de l'homme, dans Genèse 3,15, « Je rendrai tes grossesses très pénibles, c'est avec peine que tu accoucheras. » En conséquence de la chute d'Adam et Ève, Adam a eu aussi ses peines et ses souffrances. C'est à la sueur de ton front que tu cultiveras dans une terre rebelle, aride, plein d'épines. Et toi, Ève, tu enfanteras dans la douleur. Qui n'a pas connu une douleur, une souffrance dans sa vie, soit physique, soit morale, soit spirituelle? Voilà. Jusqu'à aujourd'hui, c'est le lot de l'humanité. Le lot de l'humanité est, chacun d'entre nous, nous avons passé par cette route. Il en est de même concernant la fin du monde et la nouvelle vie offerte au monde à travers les souffrances. Les souffrances et la croix de Jésus-Christ le Seigneur. La vie nouvelle a été, est donnée à travers la souffrance de Christ. La souffrance qui a été provoquée à Christ à travers le péché de l'homme. Autrement dit, toute douleur, toute souffrance, dans n'importe quel domaine, a toujours la même racine. La chute de l'homme, son péché, sa rébellion. Et tous, même lorsque nous venons à Jésus-Christ, nous ne pouvons pas dire que nous sommes exempts de souffrance. Nous sommes dans un corps qui doit disparaître dans lequel le péché habite. Et c'est ainsi que, quoique étant enfant de Dieu, victorieux, marchant avec Christ, combien de fois ne sommes-nous pas frappés même par la maladie? Est-ce la volonté de Dieu que nous soyons malades? Non, je ne vais jamais dire cela. Mais je vais dire que, certaines fois, Dieu permet que nous passions par la souffrance pour nous enseigner quelque chose. Faisons attention, mes frères. Ne jugeons personne parce qu'il est malade. Et si nous sommes en bonne santé, ne nous glorifions pas au-delà de nous-mêmes, car c'est une grâce, et une grâce n'est jamais méritée. Si nous avons la santé physique, souvenons-nous que c'est une grâce et que nous ne la méritons pas parce que nous sommes marqués par le péché aussi bien que les autres. Et peut-être qu'un jour nous allons connaître la maladie et que nous aurons besoin à ce moment-là de nous humilier auprès de Dieu parce que nous avons trop jugé les autres qui étaient malades. C'est trop une habitude que j'ai entendue trop de fois ici au Congo. Tu es malade, c'est parce que tu as péché. Attention, tu n'as pas le droit de parler comme cela. Tu n'as pas le droit de parler comme cela. Je sais que la souffrance est un mystère. C'est un mystère. Pourquoi un enfant de Dieu précieux, qui marche dans la vérité, avec courage, avec le Seigneur, doit connaître la souffrance? Pourquoi y a-t-il un Job qui a connu une souffrance extrême? Mais parce que Job ne savait pas ce qui se passait là-haut, et que Satan défiait Dieu. Et Dieu, à travers la souffrance de Job, a confondu Satan et ses ennemis. Oh, mes frères! Ce qui est important, c'est avant tout ce que Dieu veut faire de nous. Faisons attention dans nos déclarations, dans notre témoignage vis-à-vis des autres, afin de ne pas troubler celui qui souffre en lui ajoutant encore de la souffrance. Oui, à travers les souffrances et la croix de Christ, oui, il y a eu le salut des hommes à qui une vie acquise à travers la souffrance. Une vie éternelle, une vie nouvelle pour vous comme pour moi. Réjouissons-nous pour cela. Et enfin, alors, il y aura la rédemption d'Israël et le règne du Messie. Tout cela, le salut du monde à travers Jésus-Christ, une nouvelle vie, la rédemption d'Israël, le règne du Messie, tout cela à travers la souffrance. Regardons les choses en face, mes frères. Regardons les choses en face. Si tout cela nous est promis, si la vie éternelle nous est promise, si la rédemption d'Israël se réalisera et le règne éternel du roi des rois et du seigneur des seigneurs, c'est à cause de la souffrance qu'il a endurée à cause de notre péché. Ce n'est pas son péché. Le péché a fait d'énormes ravages dans le monde, d'énormes ravages. Dans le passé jusqu'à aujourd'hui, ces ravages n'ont pas cessé. Notre monde a connu plus de larmes, plus de souffrances. Notre monde a connu plus de peine que de joie, que de bonheur, que de paix réelle. La joie, le bonheur, on peut l'avoir, mais au prix de combien de souffrances? Si nous devons évaluer à travers notre vie les jours de souffrance, les jours de larmes, les jours de désespoir et les jours de satisfaction, de bonheur complet, vrai et de paix, qui va l'emporter? En tout cas, lorsqu'on n'est pas à Jésus-Christ, le négatif pèse très lourd et le positif est très mince. Très mince. On pense trouver la joie et le bonheur à travers la boisson, à travers les femmes, à travers les garçons, à travers l'argent, à travers tout cela. Mais regardez, le cœur d'un riche, il est malheureux. Il est malheureux. Mes frères, pour Jérusalem, la ville du grand roi, ce sera le retour à sa complète restauration lorsque le maître reviendra. À sa complète restauration et au but que Dieu lui a assigné depuis qu'elle existe. Elle deviendra la capitale du monde pour l'éternité, où règnera le roi Messie, Jésus-Christ le Seigneur, dans une paix complète, sans mélange, dans un bonheur complet que nous n'avons jamais connu ici-bas sur notre planète. Ce renouveau ne se fera pas au préalable sans souffrance indicible, car la souffrance n'est pas encore arrivée à sa fin pour notre monde. Jérusalem doit encore passer par des heures sombres avant que le temps des gentils, le temps des nations arrive à sa fin et que la rédemption du peuple juif prenne place. Il y aura encore des souffrances. Les nations ne vont pas abandonner leur domination sans en être forcées. Ils ne vont pas volontairement abandonner leur domination sans en être forcés. Jusqu'à aujourd'hui, ils cherchent à dicter à Israël ce qu'il doit faire. Et on l'accuse de violer les lois internationales. Les nations ne vont pas abandonner sans qu'ils soient forcés. De Jérusalem, les Juifs sont destinés à devenir les maîtres du monde. Ah, ça ne vous plaît pas? Je sais que ça écorche les oreilles de certains. Les Juifs sont destinés à devenir les maîtres du monde sous l'autorité du Dieu révélé en Jésus le Messie. Car tel est son plan. En conséquence de quoi, le monde, sous l'autorité de Satan, est déterminé à ruiner Jérusalem et à détruire tous les Juifs. Plus que jamais. C'est ce qu'il va et c'est ce qu'il essaye de faire. Ceci est le plan de l'ennemi. Détruire Jérusalem et détruire tous les Juifs. Mais Dieu a d'autres plans. Et il est celui qui est le plus fort. Il est le plus fort dans la bataille, il est le plus fort dans les combats. Nous l'avons chanté tout à l'heure. Il triomphe dans nos combats et dans nos batailles. Qui es-tu, toi, ô homme? Qui es-tu, toi, Satan, pour tout Satan, toi, créature, pour t'opposer au Dieu créateur? Nous lirons dans Jérémie, chapitre 31, versets 35 à 37. Les hommes veulent la destruction d'Israël. Et vous allez voir, c'est ce qu'ils vont essayer encore de faire. La destruction de Jérusalem. Jérémie 31, 35 à 37, il est écrit. « Ainsi parle l'Éternel qui donne le soleil pour éclairer le jour, les phases de la lune et des étoiles pour éclairer la nuit, qui soulève la mer et fait mugir les flots, lui dont le nom est l'Éternel des armées. Si ces lois viennent à cesser devant moi, oracle de l'Éternel, là, il souligne, c'est moi qui parle. Si ces lois viennent à cesser devant moi, oracle de l'Éternel ou parole de l'Éternel, ça dépend des traductions. La descendance d'Israël aussi cessera pour toujours d'être une nation devant moi. Ainsi parle l'Éternel. Si, c'est répété, vous voyez, si les cieux en haut peuvent être mesurés, si les fondements de la terre en bas peuvent être sondés, alors je rejetterai toute la descendance d'Israël à cause de tout ce qu'ils ont fait. Oracle de l'Éternel, troisième fois. Voici que les jours viennent, oracle de l'Éternel, quatrième fois, où la ville sera rebâtie pour l'Éternel. Et au verset 40, la deuxième partie du verset 40, tous seront consacrés à l'Éternel et ne seront plus jamais ni renversés ni détruits. Où ? À Jérusalem. Où ? En Israël. Ah ! Est-ce que Dieu va laisser son peuple être détruit par les nations ? Exterminé comme on a déjà essayé dans le passé ? Est-ce que Dieu va laisser son peuple être opprimé par les nations ? Mais de quoi vous mêlez-vous de cette petite terre, très petite terre, pour lui disputer quelques kilomètres carrés? La question est celle-ci. Israël peut-il être détruit? Israël peut-il être anéanti? Est-ce possible que Israël soit effacé de la surface de la terre? Ma réponse est oui. Oui. Mais, n'oubliez pas le mais. Le seul moyen, dit Dieu, que Israël disparaisse, c'est que le soleil s'arrête de briller. Le seul moyen pour que Israël soit effacé de la surface de la terre, c'est que les étoiles cessent de luire et que la lune soit ténèbre. Et que les hommes puissent dénombrer le cosmos. Si les hommes peuvent dénombrer le cosmos, la voûte céleste, les millions et milliards d'étoiles, alors c'est qu'Israël sera anéanti. Que l'homme puisse dénombrer le cosmos et sonder les profondeurs de la terre. Ah, voilà ce que dit Dieu. Israël subsistera. Si Israël ne peut être détruit, ainsi en est-il de Jérusalem. Jérusalem ne pourra être détruit, c'est-à-dire anéanti. Elle connaîtra encore des destructions partielles, mais ne sera jamais anéantie. Jérusalem a été attaquée de nombreuses fois dans l'histoire. Elle le sera encore, nous le voyons dans la parole, avant l'établissement du royaume définitif du roi des rois et du seigneur des seigneurs. Le prophète Ésaïe nous dit ceci, au chapitre 24 et au verset 23. Voici ce qu'il nous dit. La lune sera confuse et le soleil aura honte, car l'Éternel des armées règne sur la montagne de Sion et à Jérusalem. La gloire sera en face de ses anciens. Amen. Il aura son trône là à Jérusalem. Sachons bien que les ennemis d'Israël ne pensent et ne manipulent que le présent. Mais ils ne peuvent prévoir le futur. Nous pouvons mieux prévoir le futur que les ennemis d'Israël. Pourquoi? Parce que nous croyons à la parole de Dieu et nous savons que ce livre est inspiré par Dieu et par le Saint-Esprit et que Dieu nous dit les choses à venir dans la mesure de ce qu'il désire que nous connaissions pour fortifier notre foi. Mais les ennemis d'Israël, quels qu'ils soient, de l'Est ou de l'Ouest, du Nord ou du Sud, ne peuvent pas prévoir le futur. Ils ne peuvent penser et manipuler que le présent. Car le futur leur est inconnu. C'est Dieu seul qui tient le futur dans sa main, avec certitude. Il nous a révélé ce que nous devions savoir. Et ce que nous pouvons savoir, c'est ce que nous exprimons ici dans cette église depuis passablement de semaines. À travers ce que Dieu nous fait savoir dans son saint livre, des choses à venir. Nous voudrions savoir mieux et savoir plus. Peu importe ce que nous savons déjà, nous en trouve la porte de l'éternité. Dieu tient le futur dans ses mains et il a déjà tout planifié pour sa gloire. Pour sa gloire et la gloire de son peuple d'Israël. Instrument. Le peuple d'Israël est un instrument entre les mains de Dieu et un signe pour les nations. Ils ne comprennent pas qu'il est un signe parce qu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Les ennemis d'Israël regardent Israël comme une proie à ravir et à dévorer. Mais qu'ils feront pour leur perte. On ne fait pas n'importe quoi avec la ville du grand roi de l'univers. On ne fait pas n'importe quoi avec le peuple qu'il a choisi pour se révéler. Se révéler à qui? Pas seulement à ce peuple, mais au monde entier. Il a choisi cette ville pour y demeurer. Qu'avez-vous à dire, vous, président des nations? Vous, hommes, petits vers de terre, si prétentieux, et dont le nombre des années est contrôlé par le Dieu vivant. Jérusalem, dans l'histoire des hommes, est une ville de souffrance. Cette ville a connu des guerres et des ruines multiples. Aucune ville dans le monde, à travers l'histoire, n'a connu autant de malheurs et de ruines dans son existence de 33 siècles. Elle a été ravagée par des tremblements de terre, phénomène, disons, naturel. Mais elle fut aussi attaquée par de nombreux envahisseurs, parmi lesquels nous en connaissons passablement les Égyptiens, les Assyriens, les Babyloniens, les Macédoniens, les Ptoléméens, les Séleucides, les Romains, les Byzantins, les Perses, les Arabes, les Croisés, les Mongols, les Mamelouks, la Turquie, les Turcs, les Britanniques, les Jordaniens, etc. Jérusalem subit 36 guerres à travers son histoire. Elle a enduré 20 sièges et blocus. Des collines ont été rasées, des vallées ont été comblées par ces armées qui l'ont assiégée. Ses bâtiments ont été brûlés combien de fois? Le temple a été brûlé. Ses prêtres et sa population de Jérusalem a été exterminé avec les cadavres dans les rues. Ou bien, ils ont été vendus sur les marchés d'esclaves en Égypte, en Alexandrie, à travers le monde, exilés. Comment ce peuple a-t-il pu subsister? La ville entière a été réduite en décombres 17 fois, sans plus aucun bâtiment debout. Elle fut reconstruite 18 fois et a souffert des périodes de désolation et d'exil, des périodes désertiques où seules les bêtes sauvages et les chacals se promenaient dans ces ruines. Il n'est pas étonnant que le prophète Jérémie lui-même, rempli de tristesse à cause de la ruine de Jérusalem en l'an 586, lorsque les armées babyloniennes l'ont anéanti et qu'ils ont saisi le roi Sédécias et l'ont emmené enchaîné, auquel ils avaient crevé les yeux en Babylonie, Jérémie s'est écrié dans les Lamentations de Jérémie au chapitre 2, verset 13. « Que te dirai-je encore, ô Jérusalem, que te dirai-je encore? Comment m'exprimer? Qui serait pour moi ton égal? Ta souffrance dépasse la souffrance de quelque autre ville à travers le monde. Qui serait pour moi ton égal? Et quelle consolation te donner, Vierge de Sion? Car ton désastre est aussi grand que la mer. Qui pourra te guérir? » Gloire à Dieu, il y en a un. Il y en a un qui peut te guérir de ta désolation. Il y en a un qui peut te guérir de tes ruines. Il y en a un qui veut toujours et encore mettre son nom là, à Jérusalem. Mais si tu as été à ce point ruiné, c'est à cause de la dureté de ton cœur. N'avais-je pas fait alliance avec toi et avec tes pères? Ne t'avais-je pas donné mes commandements et mes lois? Ne savais-tu pas que je ne pouvais supporter devant ma face d'autres dieux? Tu t'es laissé égarer. Tu n'as pas voulu écouter la voix de mes prédicateurs remplis de l'esprit, de mes prophètes qui sont venus te parler et t'avertir de tout ce qui allait venir. Et lorsque ces choses sont venues, tu savais qu'elles viendraient, mais tu n'as pas cru. Et lorsqu'elles sont venues, c'était trop tard. Après 70 ans de captivité, la ville a été restaurée. L'exil fut terminé. Juda et Jérusalem furent reconstruits, à nouveau habités. Beaucoup retournèrent à leur Dieu dans la repentance après ces années d'exil, mais tous ne revinrent pas. Christ Jésus vint dans Jérusalem encore, mais Jérusalem refusa de le recevoir, car ils étaient tous tombés dans une tradition morte, et ils étaient devenus des hypocrites religieux. Jean 1, 11 nous dit ceci, il parle du Seigneur qui est venu, comme étant la parole qui était faite chair. Et il dit, elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Les siens ne l'ont pas reçue. Conséquence, le jugement est tombé sur Jérusalem, qui a été assiégée par les Romains, et détruite, ainsi que le dernier temple, complètement détruit. Il n'y a plus pierre sur pierre. Toutes les pierres du temple, du bâtiment extérieur, ont été retournées à cause de l'or qui était mis dans le temple. Et comme le temple avait été incendié à cause, je dirais entre guillemets, d'une bêtise d'un soldat, puisque Titus avait donné l'ordre que le temple ne soit pas incendié, un soldat a laissé tomber sa torche dans le temple, et les rideaux ont pris feu, et personne n'a pu maîtriser l'incendie du temple. L'or qui était là sur les murs a coulé par la chaleur. Et c'est ainsi que chaque pierre était retournée par les soldats pour récupérer l'or. Jésus a dit, il ne restera pas pierre sur pierre. Tout ce qui reste encore, ce sont ces énormes pierres qui ont été mises là par Salomon lorsqu'il a construit ce temple. Et c'est là que les Juifs pleurent encore aujourd'hui. Aucun Juif ne pouvait s'imaginer une telle chose. Aucun. Ils disaient, ils avaient l'habitude de dire le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. Oh, le temple est là, donc il ne reste rien de nous arriver. Quoi donc ? Ce n'est pas le temple qui va changer quelque chose au jugement de Dieu si vous êtes des hommes partagés. Mais malheur encore, un malheur encore plus grand devait arriver avec le régime nazi de 1930 à 1945, où 6 millions de Juifs périrent de façon industrielle, si je puis dire. Plus de Juifs ont été exterminés qui n'ont jamais résidé à Jérusalem et en Israël, et même dans la diaspora, au premier siècle de notre ère. Au premier siècle de notre ère, il n'y avait pas 6 millions de Juifs. Aujourd'hui, on pense que rien de pire ne peut arriver au peuple juif. Mais voilà qu'à nouveau, l'antisémitisme revient à la surface à travers le monde, de nos jours, avec force. L'antisémitisme. Il faut voir ça à la tête des gens quand on parle des Juifs. Ça se lit tout de suite sur la figure. Dans le monde entier, le livre du prophète Zacharie, dans l'Ancien Testament, et l'Apocalypse, dans le Nouveau Testament, parle de la bataille d'Armageddon, qui est une bataille considérée comme la solution finale envisagée par l'Antéchrist au problème juif. Du temps des nazis, on parlait du problème juif. Et ce problème juif pèse encore sur le monde, parce que le monde ne veut pas accepter Israël, le juif. Parce qu'au-delà d'Israël, le juif, Jérusalem, il y a le Dieu puissant et c'est une révolte contre Dieu. Comme ce fut la solution finale pour les nazis dans l'extermination des Juifs, c'était le terme employé, la solution finale. Ce ne sera rien d'autre, cette guerre d'Armageddon, qu'une tentative de Satan pour détruire entièrement Israël et les Juifs dans un dernier effort contre le plan de Dieu pour le monde à travers le peuple juif. En attaquant Israël dans sa coalition mondiale, on s'attaque à Dieu lui-même. Là, l'Antichrist qui a rallié toutes ses armées du monde entier s'attaque à Dieu lui-même. Ce sera le rassemblement des armées de l'Antichrist dans la vallée de Jisréel. Apocalypse 16, 13 à 16. Je vis sortir de la gueule du dragon, de la gueule de la bête, et de la bouche du faux prophète, trois esprits impurs, semblables à des esprits de grenouilles. Ce sont des esprits de démons qui opèrent des signes et qui s'en vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour de Dieu, le Tout-Puissant, au verset 16. Ils les rassembleront dans le lieu appelé en hébreu Armageddon, ce qui veut dire montagne de Megiddo, célèbre champ de bataille dans l'histoire d'Israël. Si vous allez en Israël aujourd'hui, vous pouvez voir cette place. Cette bataille avec la profanation au préalable par l'Antichrist du temple qui aura été reconstruit. Vous devez savoir que déjà aujourd'hui, tous les matériaux pour la construction du temple sont prêts. Dès l'instant voulu par Dieu, le temple peut être rapidement reconstruit à Jérusalem. C'est ce qu'attendent les Juifs. Ils sont toujours dans l'ancienne alliance. Le temple qui aura été reconstruit. Et ce sera un signal. Un signal, la profanation du temple par l'Antichrist qui voudra se faire passer pour Dieu. Un signal précis annonçant la venue imminente du Messie. Quand l'Antichrist enverra ses armées pour détruire Israël, qui sera le dernier, Israël sera le dernier vestige d'une sainte espérance sur la terre, étant le reste des Juifs fidèles. Le reste des Juifs fidèles, je dis bien. Je lisais justement, pas plus tard que hier, je suis tombé sur un site d'Israël, des Juifs, publié par eux-mêmes. Il est effrayant de voir comme il y a des Juifs égarés loin de leur Dieu, qui ne croient pas qu'ils sont athées. Il y a des centaines, des milliers de lesbiennes, d'homosexuels. Là, ils donnent même les chiffres en Israël aujourd'hui. Ça, ce ne sont pas les fidèles. Ce n'est pas eux qui vont se tenir devant le Messie. Et lorsqu'on connaît tout cela, et ce qui se passe aujourd'hui en Israël, dans la ville de Tel Aviv particulièrement, mes frères, on ne s'étonne pas que d'abord, il y aura un jugement sur ce genre de personnes. Qui sera le dernier vestige, Israël, d'espérance sur la terre, étant le reste des Juifs fidèles. L'Église sera déjà enlevée. L'Église fidèle, bien sûr. La fausse Église restera sur la terre. Elle aura été enlevée et l'Esprit Saint également sera retiré de la terre. Ce super-homme, appelé l'Antéchrist, deviendra le dictateur mondial. Il sera l'incarnation même de Satan. Il ralliera à sa cause les nations pour lesquelles il aura apporté des solutions à leurs problèmes économiques et sociaux. Les hommes cherchent une super-intelligence pour les aider. Avoir la prospérité économique pour ôter ces problèmes qu'ils ont, soit au point de vue social et économique. Ce super-homme y arrivera et ralliera les nations à sa cause. Il aura une intelligence supérieure, mais satanique. Tous ceux qui n'ont pas cru et suivi Christ, le Seigneur, seront séduits par ce super-homme et croiront au mensonge car ils n'ont pas voulu croire à la vérité. Ils ont refusé de croire à la vérité et ils croiront au mensonge. Zacharie 12, 3 nous dit ceci. « En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre lourde à soulever pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront gravement meurtris et toutes les nations de la terre se rassembleront contre elle. » Ah. La bataille de Jérusalem n'est pas terminée. Et cette bataille d'Armageddon sera contre le peuple juif et Jérusalem pour les exterminer. Les nations seront séduites et regarderont Israël comme l'obstacle principal à leur volonté qui consiste à soumettre tous les hommes au dictateur, l'Antéchrist, et à sa religion. Car il y aura le faux prophète, c'est-à-dire la fausse église. La fausse église œcuménique qui sera là. Et ils voudront soumettre par la force. Chacun devra avoir la marque de la bête sur lui. Il voudra se faire passer pour Dieu et voudra que tous se soumettent à sa volonté, ce que Israël refusera, comme aujourd'hui les nations veulent soumettre Israël à leur loi. Et on voit jusque sur l'Internet et à la radio ou à la télé qu'on dit qu'Israël viole les lois internationales. Et ils veulent soumettre de force Israël à leur loi. Mais il y a une loi supérieure à celle des hommes, n'oublions pas. Zacharie 14, 2 à 3 nous dit ceci. C'est Dieu qui parle. « Je regrouperai toutes les nations à Jérusalem pour le combat. La ville sera prise, les maisons seront mises à sac et les femmes violées. La moitié de la ville partira en déportation. Mais le reste du peuple ne sera pas retranché de la ville. L'Éternel sortira et combattra ces nations comme au jour où il combat, au jour de la bataille. Dieu interviendra. » Et le verset 4 qui fait suite dans le déroulement que nous exprime là le prophète Zacharie, ses pieds se poseront en ce jour-là sur le mont des Oliviers. Et l'ennemi sera anéanti par sa présence et sa puissance. Nous voyons encore dans Matthieu 24, 30. Ceci est confirmé. Confirmé ce que c'est Jésus lui-même qui confirme ce que Zacharie a dit. Et ses paroles viennent de lui. Alors le Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront. Elles verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire lorsqu'il posera ses pieds sur le mont des Oliviers. Jérusalem sera attaquée dans le but de l'anéantir et avec elle d'anéantir le peuple d'Israël, le problème juif. Mais Dieu viendra au secours de son peuple et leur communiquera à son peuple une force qui n'est pas naturelle, une force que Dieu leur donnera, qui vient d'en haut. Dans Zacharie 12, 6, lisons ceci. « En ce jour-là, je ferai des chefs de Juda comme un foyer ardent au milieu du bois, comme une torche enflammée dans une gerbe. » Ils dévoreront à droite et à gauche tous les peuples d'alentour et Jérusalem demeurera encore à sa place à Jérusalem. C'est Dieu qui parle. Dieu affirme avec force sa participation dans la bataille et sa protection envers son peuple, les fidèles de son peuple, qu'il n'abandonnera jamais. Qui est un instrument en sa main en faveur de toute la terre et de toutes les nations. Il y aura désormais séparation, séparation entre le bien et le mal. Et ceci aussi bien parmi les nations qu'en Israël pour l'établissement du royaume. Dieu ne va pas admettre toutes ces aberrations qu'on peut voir aujourd'hui dans certaines villes d'Israël. Il y aura séparation d'entre le mal et le bien. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, il s'assiera sur son trône, il séparera les uns des autres, comme un berger sépare les brebis d'avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche, et il dira à ceux qui sont à sa droite, « Venez !» Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Dieu séparera. Pas de mélange avec lui. Zacharie 12, 8 à 9. En ce jour-là, l'Éternel protégera les habitants de Jérusalem. Amen. Lesquels? Ses fidèles. En ce jour-là, l'Éternel protégera les habitants de Jérusalem. S'il y en a un qui trébuche parmi eux, il sera en ce jour-là comme David. Et la maison de David sera comme Dieu, comme l'ange de l'Éternel devant eux. En ce jour-là, je chercherai à détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Pas d'équivoque. Le message est clair. Dieu prendra en main l'issue dans la bataille. Bien sûr, il y a beaucoup à dire là-dessus. Mais là, nous avons les lignes générales. Et nous devons le savoir, nous, aujourd'hui, à la fin des temps. Ce que Dieu va faire avec Jérusalem et Israël. Dieu prendra en main l'issue de la bataille. Cette bataille le regarde. Il prendra en main l'issue de la bataille. Zacharie 14, 12 nous dit, voici la plaie dont l'Éternel frappera tous les peuples qui auront dirigé leurs armées contre Jérusalem. Vous voyez, chaque fois, Jérusalem. On parle de Jérusalem, mais Jérusalem comprend la nation entière. Mais là, c'est le siège du gouvernement mondial du roi des rois. Voici la plaie dont l'Éternel frappera tous les peuples qui auront dirigé leurs armées contre Jérusalem. La chair de chacun tombera en pourriture, tandis qu'il sera sur pied. Ses yeux tomberont en pourriture dans leurs orbites. Et sa langue tombera en pourriture dans sa bouche. Je ne sais pas si vous avez déjà lu ces passages, mais ceci nous fait trembler. Dieu se lèvera. On ne se lève pas contre l'Éternel des armées, contre le Dieu puissant, sans en subir les conséquences. On ne viole pas ses commandements. On ne se moque pas de lui sans en subir les conséquences. À plus forte raison, lorsqu'on est arrivé à une certaine connaissance de sa volonté, on devient responsable. Et plus vous écoutez cette parole ici, chaque dimanche dans cette église, mes frères, plus chacun d'entre nous, nous sommes responsables en passant par moi-même. On ne viole pas ses commandements sans en subir les conséquences. Je suis chaque fois étonné de voir comme certains viennent dimanche après dimanche et ils continuent leur genre de vie pécheresse, sans changer, pensant que tout est bien si on vient à l'église de la borne. Non, tout est bien quand on vient à Jésus-Christ et qu'on change de vie. Si la vie n'est pas changée, tout cela est vain. Et plus nous connaissons, plus nous sommes responsables et plus le jugement qui tombera sur nous sera sans excuse et sera terrible. Ô homme, qui que vous soyez, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu. Baissons la tête. Seigneur, mon Dieu, tu nous avertis. Et si, Seigneur, dimanche après dimanche, tu permets que cette parole soit annoncée comme elle l'est, c'est parce que tu nous aimes et tu nous avertis. Tu nous avertis. Nous pensons que tout est bien puisque rien ne nous arrive. Nous faisons n'importe quoi et puis nous continuons à vivre. Nous profitons de nos vols, de nos détournements. Nous profitons de nos mensonges. Nous profitons même des convoitises de la chair de tout genre. Et rien ne nous arrive et nous pensons que tout est bien comme cela. Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. Oui, Dieu est bon, mais Dieu est juste. Dieu est juste et jamais, jamais, il n'acceptera la corruption. La corruption dans son Église. C'est pour cela, ô Dieu, nous te demandons, purifie-nous encore et rends nos cœurs sensibles au message, sensibles à la parole, sensibles à l'offre qui nous est faite encore aujourd'hui pour le salut. Dieu t'a parlé ce matin. Et j'aimerais te donner l'occasion aujourd'hui de te donner à lui. Peut-être que tu es chrétien, peut-être que tu es membre de la bande, que peut-être que n'importe quoi, mais tu sais que tu désobéis à ses commandements et que tu admets le péché et que tu essayes d'avoir la satisfaction et les avantages du péché tout en servant Dieu. Non, non, Dieu ne l'accepte pas. Ne veux-tu pas te lever maintenant et te dire, Seigneur, Seigneur, s'il te plaît, sauve-moi. Lève-toi, n'attends pas, lève-toi. N'attends pas. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Merci, Jésus. N'attends pas, mon frère. Ce n'est pas la carte de membre qui va nous faire rentrer dans le royaume des cieux. Ce n'est pas la carte de membre qui va permettre que nous ayons une place auprès de Dieu dans la gloire. Non! Moi-même, lorsque je serai devant lui, certainement que je m'en vais d'abord pleurer. Pleurer, oui, réalisant mon incapacité, ma faiblesse, réalisant son amour et sa patience envers moi, car indigne, je le suis, d'hériter de telles choses. Mais si ce n'est que par grâce et par amour, je dirai merci et devant son trône, je me prosternerai. Mon frère, ma sœur, c'est maintenant qu'il faut mettre ta vie en règle. Dieu ne veut pas de mélange inacceptable. Soyez saints, car je suis saint. Ça, c'est son message. Et lui nous rend capables de devenir saints. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu et recevez ce salut gratuitement. Reprenez vos places. Et Seigneur, nous te demandons de sanctifier et de bénir ces offrandes qui te sont présentées ce matin, et que ce soit une expression d'amour et aussi une expression de louange et d'adoration avec tout ce que nous mettons dans ces paniers, et que tout cela serve à ta gloire. Rends-nous sages, Seigneur, pour utiliser le fruit du sacrifice de tant de personnes, pour l'utiliser de sa façon adéquate qui te glorifie, et pour le salut des perdus. Merci, Seigneur. Merci.
Gloire au Seigneur. Jésus revient. Seras-tu prêt quand il viendra? Si tu es prêt, il te prendra et avec lui, tu régneras. Alléluia. Nous voulons rappeler que le panier va encore passer une seconde fois, comme nous nous étions dit depuis le dimanche passé. Merci.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.